Une question difficile. Dans la Haggadah, on dit que Bechol Dor Vador, dans chaque génération, Hayav Adam Lirot Atzmo, Kiluhu Yatsa Mimitzrayim. Dans chaque génération, chacun doit se considérer comme s'il était vraiment sorti d'Égypte. C'est sûr qu'il y a une autre version, qui est la version du Rambam, qui est la version donc dans les Haggadot Sfarad, qui elle parle non pas de lirot et tatsmo, c'est-à-dire de se considérer comme, mais de se manifester comme, c'est-à-dire de faire des gestes qui montrent qu'on est sorti d'Égypte. C'est un peu plus facile de faire des gestes que de se considérer comme. Nous, on va parler que de ce problème de se considérer comme. Va falloir donc qu'on arrive à comprendre ce que ça peut bien vouloir dire, se considérer comme ou faire comme si on était sorti d'Égypte maintenant. Alors pour ça, Rabbi Tzvi Kouter fait un détour, comme souvent. Alors voilà le détour. La Gemara, elle dit que Yitzro shel Adam, le Yetzer Hara d'un homme, Mitgaber alav, il est plus fort que l'homme. Son Yetzer Hara est plus fort. Ou Mitradesh alav, et il se renouvelle. Ce Yetzer Hara se renouvelle. Vil malea kadosh baruch hu ozro, et si ce n'était qu'Hachem aide cet homme, il ne pourrait pas en venir à bout. Et la Gemara, elle s'appuie pour dire cela sur un passouk qui dit Tsofer Hasha la tzadik umvakesh la amito. Littéralement, ça veut dire, il observe, le il, c'est le Yetzirah, bon, ou le Racha, il observe le Tzadik. Il. Umvakesh la mito. Et il veut le tuer. Alors, déjà, les Baalei Moussar ou tous ceux qui s'occupent de Avoda ont posé une grave question à ce sujet-là. Le Yetzer Hara, il est là pour quoi? Il est là pour que on puisse mettre face à face un Yetzer Tov et un Yetzer Hara, et que comme la Torah nous le dit, choisis le Tov, choisis la vie, choisis le bien, et ne choisis pas le mauvais, ne choisis pas la mort. Donc, ce dont on a besoin, c'est d'un Yetzer Hara qui soit à la même hauteur, le cas échéant, que le Yetzer Tov, pour que le choix soit un véritable choix. Mais si, comme cette Gemara nous le dit, le Yetzer Hara est trop fort pour l'homme, l'homme ne peut pas venir à bout du Yetzer Hara si Hachem sans une aide extérieure, en quelque sorte. Si Hachem ne l'aide pas, alors les dés sont pipés. Le Yetzer Hara ne joue pas le rôle que nous comprenons que normalement il doit jouer, qui est d'être un alter ego en quelque sorte. Alter ego, et en tout cas être à la même hauteur que le Yetzer HaTov. Mais s'il est beaucoup plus élevé que le Yetzer HaTov, alors il ne joue pas son rôle. Son rôle, c'est un rôle dans le processus de Bechira, dans le processus de choix. Choisis la vie, comme dit le Passouk. Alors, les grands maîtres dans ce sujet d'Avoda, ils se sont posés, comme on a dit, la question, et ils se sont donné la réponse suivante. Ils ont donné la réponse suivante. Puisque c'est Hachem qui va venir nous aider, alors ce Yetzer Hara, là, il vient pour nous enseigner qu'on doit prier pour des questions spirituelles, c'est-à-dire pour vaincre le problème du mal, vaincre le mal. Il faut prier, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, la prière. La prière matérielle, la Shmoneh Esrei, la Amida, nous avons des obligations et nous ne pouvons pas remplir ces obligations. Alors on se tourne vers Hachem qui lui le peut et on prie Hachem de faire les choses qui en fait nous incombent. Mais ça veut dire que notre rôle c'est de prier. Ces questions qui sont des questions beaucoup trop grandes pour nous, elles sont là pour nous apprendre, pour nous enseigner à prier. Et dans l'Amida, on prie pour des questions matérielles, collectives, c'est-à-dire qui concernent la collectivité et pas les individus, mais c'est des questions matérielles. Et ici, on nous apprendrait, d'après ça, à prier pour des questions spirituelles. C'est la réponse qu'ils ont donnée. C'est pas une réponse complètement satisfaisante. Elle satisfait pas non plus Rav Yitzhak Koutner. Et c'est l'objet du shiur de ce soir, de trouver une meilleure réponse. En vérité, pour avancer, il faut dégager de l'enseignement de ces grands maîtres, de l'analyse qu'ils ont faite, qui a débouché sur la solution qu'ils ont donnée, mais en amont, dans leur analyse, il faut aller prendre des éléments. C'est vrai que le Yassara, il a des forces que l'homme seul, par lui-même donc, ne peut pas vaincre. Alors, en fait, les Chachamim m'ont bien mis le doigt sur ces forces-là, sur l'endroit où ces forces joue, en fait. Les forces du Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que, avant de nous dire cet enseignement que le Yetzer Hara est plus fort et que si Hachem n'aidait pas, on n'y arriverait pas, ils nous ont enseigné, juste avant, d'enseigner qui Yitzroch et la dame mitradesh alav bechol yom, que le Yetzer Hara se renouvelle chaque jour. Donc ça veut dire que les forces spéciales du Yetzer Hara, celles que L'homme ne peut pas vaincre par lui tout seul, à lui tout seul. Leur racine, la racine de ses forces, elle est dans la capacité à se renouveler que possède le Yetzirah. C'est-à-dire, le Yetzirah, il a la possibilité de sortir de son fonctionnement habituel. Ce qui fait que, d'une certaine manière, on est toujours en retard d'une guerre sur le Yetzirah. C'est-à-dire qu'on est confronté à un Yetzerara qui est, on pourrait dire, qui est toujours frais. Il y a une certaine fraîcheur, une certaine énergie particulière du Yetzerara qui lui vient de ce que c'est le produit d'un renouveau. Ça sort de l'ordinaire. À l'ordinaire, on sait répondre. C'est pas toujours facile, mais on sait répondre. Et quand ça sort de l'ordinaire, on n'est pas équipé, on comprend pas comment on peut faire face. Mais on fait pas face, effectivement. Et cette force-là de renouvellement, il lui permet d'être plus fort que l'homme. Ce qui fait que l'homme n'arrive pas à lutter contre les Yetzirah. Maintenant, évidemment, comme toujours, on va avoir une petite question. La question est technique, mais en fait, elle tient à l'essentiel. La Torah, la Gemara, donc en l'occurrence, elle nous a donné un pasouk pour expliquer la supériorité du Yetzirah. Le pasouk, c'est celui que je vous ai cité. Le pasouk dit « Sofer racha la tzadik, mbakesh la amito. » Le racha, il observe le tzaddik, et ils veulent le tuer. Mais dans ce verset, il n'y a pas de trace d'une référence quelconque à la notion d'itrachut, de renouvellement. Alors si la source des forces particulières du Yetzirah, c'est le renouvellement, alors c'est quoi ce verset que les Chachamim nous ramène comme source? C'est une source qui n'a rien à voir avec le problème du renouvellement. Alors, on sait bien que si les Chachamim nous donnent une source, c'est pas pour nous embrouiller. C'est parce que la source, c'est une vraie source. Donc, le point pour l'instant, c'est, a priori, les Chachamim, ils ont réfléchi et ils nous ont dévoilé que la puissance du Yetzirah, elle lui venait de sa capacité à se renouveler. Mais d'un autre côté, le verset que les Chachamim nous donne, il fait pas mention du tout d'une capacité à se renouveler. Alors cette idée de renouvellement, le renouvellement possible, qu'on voit du côté du mal, en fait, du côté, si vous voulez, de la Touma, de la mort, cette capacité de se renouveler, elle existe aussi du côté de la Kdusha. Et on va essayer de dire exactement où elle se trouve. Cette idée de Bechol yom vayom. Quelque chose qui est de l'ordre de chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, il y a un renouvellement. Donc, où est-ce qu'on trouve ça dans la Kdusha? Alors, en fait, dans le premier paragraphe du Shema, il y a ce fameux mot qui fait toute la différence, en vérité. Nous disons dans Asher Anochi Metzavcha Hayom. Donc, ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui. Et les Chachamim disent, Bechol Yom Vayom, chaque jour, Yubenecha Keilu, Nitztavita Alehem Hayom. C'est-à-dire chaque jour, ces paroles que je t'ai données, qui ont été données donc en matin de Torah, qui ont été données, qui sont écrites dans la Torah, faut considérer que ces paroles, chaque jour, nous sont redonnées à nouveau, et que on doit les appliquer, ces paroles, les traiter, les appliquer. Justement, avec toute l'énergie, avec toute la joie qu'on a à faire quelque chose pour une première fois. Alors, d'ordinaire, quand on lit ce premier paragraphe et quand on regarde ce Hayom que les paroles en question, elles doivent être considérées comme nous ayant été données aujourd'hui. On entend ici quelque chose qui est une marque d'amour de la part d'Hachem, qui nous incite à considérer comme très précieuses ces paroles, puisqu'elles viennent de nous être données. Une marque d'amour. Alors, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai que une mitzvah qui a été donnée à l'homme et qui peut faire pour la première fois de sa vie, elle est précieuse, elle. C'est sûr qu'elle nous est chère. Mais d'après ça, ça veut dire que dans ce le fait de considérer que ça nous a été donné maintenant, chaque fois à nouveau, c'est seulement un signe d'amour, une marque du côté précieux de cette mitzvah. C'est-à-dire que, puisque c'est seulement un signe, ça veut dire que c'est pas quelque chose d'essentiel. Or, si on réfléchit, on comprend bien qu'il y a quelque chose de plus profond là-dedans. Et quelque chose de plus subtil, si vous voulez. C'est-à-dire, comme si c'était donné aujourd'hui, ça doit être quelque chose de plus essentiel à la mitzvah, et pas simplement un signe d'amour. Alors pour avancer, il faut utiliser un enseignement de Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, donc, c'est un Rishon de l'époque du Ramban, espagnol, celui qui a écrit c'est faire très important, qui s'appelle Sha'arei Tshuva, qu'on lit beaucoup autour du mois d'Eloul et autour de la Tshuva, évidemment. Rabbeinu Yona, qui est par ailleurs un grand commentateur de la Gemara, Il explique que tout ce qui est dit dans le premier paragraphe du Shema a à voir avec la mitzvah de Kabbalat Ol Malchut Shamayim, qui est la mitzvah qui justifie qu'on accomplit en lisant le Shema. Quand on dit cette phrase de Shema Israël, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que on accepte Hachem comme notre roi. Kabbalat Ol Malchut Shamayim, le règne du ciel, enfin le règne d'Hachem. Alors Rabbeinu Yonah dit, c'est pas seulement le premier verset, c'est tout le premier paragraphe qui doit être entendu comme nous disant comment est-ce que on couronne le roi, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire que d'accepter Hachem comme notre roi? C'est ça l'idée de Rabbeinu Yonah. Maintenant, pour essayer de mieux comprendre, il y a un truc, si vous voulez, qui s'exprime en disant Me oivai techakmeni. C'est-à-dire, rends-moi plus sage à partir de mes ennemis. C'est-à-dire que de la façon dont mes ennemis se comportent, de la façon dont mes ennemis m'attaquent, comment ils construisent leurs attaques, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui a pour but, à quoi ça sert finalement? Ça sert à nous donner des idées sur le contraire de ce qu'il faut faire, bien sûr. Par conséquent, pour bien comprendre ce que c'est que de couronner Hachem comme roi, on va aller regarder ce que dit la halakha au sujet du contraire oui, le contraire, c'est-à-dire ce que Yetzirah va me suggérer, du contraire de ce que on a à faire, c'est-à-dire à couronner. Et qu'est-ce que c'est le contraire de couronner Hachem? Eh bien, c'est couronner une idole. C'est-à-dire faire de son idole son roi, son l'avdil. On veut couronner Hachem, faire d'Hachem notre roi. La halakha de la Avodazara nous dit, ce qui est interdit, c'est de faire de l'idole ton roi. Alors là, on a besoin d'un chidouche, qui est un chidouche du Chazonish, en fait. Dans la Gemara, dans Avodah Zara, on dit que autour, disons avant, mais aussi après, mais avant les fêtes des idolâtres, on n'a pas le droit de faire en sorte que l'idolâtre se réjouisse de la bonne affaire qu'il a faite et qu'il aille. Et le problème, c'est ce qu'on veut éviter, c'est qu'il aille le jour de la fête exprimer sa reconnaissance à son Dieu. Et là-dessus, la Gemara, elle dit, que l'interdit qu'on commet si on fait ce commerce avec le goy qui, donc, grâce auquel il va aller exprimer sa reconnaissance parce que ça a bien marché pour lui à son Dieu. L'interdit, c'est qu'on transgresse, c'est loishama al picha, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de faire en sorte que l'idolâtre prononce avec louange le nom de son idole. Loishama al picha. Alors tout le monde pose la question, pourquoi est-ce qu'on est allé chercher ce verset-là de Loishama al picha? C'est un cas classique de l'Ifnei Iver. Il y a un pasouk très connu, Ifnei Iver lo titen mirchol, devant un aveugle, tu n'as pas le droit de poser un obstacle. Alors ça concerne, bien sûr, une situation dans laquelle on permet à un juif de transgresser, on va voir, je vais donner un peu plus de détails, de transgresser quelque chose, mais ça marche aussi pour un goy. Si on permet à un goy de transgresser une de ces sept mitzvot, on transgresse aussi l'ifnei iver. C'est de mettre devant lui un obstacle. Alors vous savez bien que dans l'ifnei iver, le cas classique de l'ifnei iver, c'est un nazir. Le nazir, c'est quelqu'un qui a pris sur lui de se comporter d'une certaine manière. Il a un nouveau statut qui ressemble un peu au statut du Cohen, disons. Mais dans ce statut, il n'a pas le droit de boire de vin. Alors, supposez que vous avez un nazir qui veut boire du vin, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et vous allez l'aider. Lui, il n'a pas de vin. Et vous allez lui donner une bouteille. Ça veut dire vous lui permettez de transgresser. Alors la halakha, elle est que si le goy aurait pu lui aussi aller s'acheter une bouteille, alors vous n'avez pas le droit de le faire, mais vous ne transgressez pas l'interdit de l'ifnei iver minatora. On transgresse l'interdit de l'ifnei iver seulement si le goy est de l'autre côté de la rivière. Et de l'autre côté de la rivière, il n'y a pas de débit de boisson. Et vous lui envoyez une bouteille. À ce moment-là, vous transgressez véritablement le din de l'ifnei iver. Ça, c'est juste pour dire un guéder, une des définitions fondamental du dîme de l'Ifnever. C'est interdit aussi normalement, mais la transgression, c'est seulement, comme on dit, betré ivré de Nahara, quand on est de part et d'autre de la rivière. Lui, il pourrait pas, parce que de son côté de la rivière, il n'y a pas de vin, et vous lui donnez du vin, parce que vous lui transmettez. Il y a un bac qui passe, et vous lui envoyez une bouteille. À ce moment-là, c'est vraiment le vrai l'Ifnever. Donc, si maintenant, un juif produit chez le goy un sentiment de, il est très joyeux, il est très content, et il est reconnaissant, il va exprimer sa reconnaissance en allant le jour de la fête, il va dans son temple et il remercie son Dieu, il dit merci mon Dieu de m'avoir réussi à faire cette très bonne affaire. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que on dit que c'est l'oishama al-picha? Pourquoi on ne dit pas simplement que c'est l'ifnei iver? Alors, le Chazon Ish a expliqué que le din d'Avodazara, l'interdit d'Avodazara, on le transgresse seulement de deux manières. Il n'y a que deux manières de le transgresser. Ou bien c'est de dire à l'idole, tu es mon Dieu, je t'accepte comme mon Dieu, C'est une possibilité. Ou alors, c'est de le servir, c'est-à-dire de se prosterner devant lui ou de lui apporter des sacrifices, etc. Mais lui exprimer sa reconnaissance, ce n'est pas le couronner. Il est déjà couronné, il est déjà ton Dieu. Simplement, tu vas lui exprimer ta reconnaissance. Ça, dit le Chazonish, c'est pas l'interdit, c'est interdit de le faire, mais c'est pas l'interdit d'Avodazara. L'interdit d'Avodazara, c'est seulement une des deux modalités que je vous ai citées. Donc, on voit que la Avoda Zara, la vraie Avoda Zara, c'est une de ces deux choses. Et donc, l'Avdil l'élève Avdalot. Si maintenant on veut apprendre de nos ennemis, on veut apprendre de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, on va dire, voilà, le couronnement d'Hachem, ça se fait aussi uniquement de ces deux manières-là. Ou bien parce qu'on proclame Hachem, tu es mon Dieu, je te prends comme mon roi, mon Dieu. Ou bien on fait la avoda, on pratique la avoda. Donc on apprend du Chazonish que ce que la Gemara appelle azil ou modé, il va exprimer sa reconnaissance, c'est pas avoda zara. Du coup, si on exprime sa reconnaissance seulement, ça n'est pas non plus suffisant. Ça s'appelle pas Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Kabbalat Ol Malchut Shamayim, c'est vraiment dire à Hachem, je t'accepte comme mon Dieu, je t'accepte comme mon roi. C'est vraiment ça. Et d'après Rabbeinu Yonah, tout le premier paragraphe sert à nous dire comment on accepte Hachem comme notre roi. C'est dans cette optique-là qu'il faut lire et interpréter le premier paragraphe du chemin. Alors, on reprend. On va appliquer le Me'oivai Techakmeini. On va être sage grâce à nos ennemis, en quelque sorte, en apprenant ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, traduit dans le bon sens, ça veut dire que pour accepter, faire ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim, l'acceptation du joug de la royauté céleste, c'est seulement lorsqu'on fait un nouveau couronnement. S'il n'y a pas de couronnement, alors si on ne lui dit pas maintenant, tu es mon roi, mon Dieu, exactement comme l'Avdil, dans l'autre côté, on n'a pas transgressé l'interdit d'Avodazara. Bon, c'est pas suffisant, donc. Donc maintenant, Asher Anochi Metzavcha Hayom, qui est une des phrases de ce fameux premier paragraphe du chemin. Et nous disons que ça veut dire que chaque jour, Chol Yom Vayom, c'est pas le fait qu'il faut considérer que c'est une nouveauté. C'est pas seulement, comme on a vu, c'est pas seulement un signe d'amour de la part de Dieu, une indication du côté précieux de ses paroles. Mais en fait, c'est un approfondissement. L'approfondissement de la Kabbalat Ol Malchut Shamaim, ça veut dire ce Bechol Yom Vayom, Il transforme le chemin Israël d'une avoda de reconnaissance dans la royauté d'Hachem contre une avoda de couronnement. Nouveau couronnement. Couronne à nouveau Hachem comme roi. Donc, considérez que les paroles d'Hachem, que les mitzvot qu'Hachem nous donne, elles sont à chaque jour renouvelées, c'est renouveler le couronnement d'Hachem pour nous. Alors, tout ça, c'est construit sur d'où ça vient cette capacité de se renouveler. OK, comment est-ce que... D'accord, je peux pas... C'est pas en mettant un badge chaque jour, c'est les nouveaux. C'est quoi? Comment on fait pour vivre la chose? Il y a une force particulière dans le nefesh de tout homme. Cette force particulière, elle s'appelle koach ha'itrachut, capacité de renouvellement. Quand cette force-là gère la conduite de quelqu'un, alors, cet homme-là, il se dit quelque chose du genre, c'est vrai que cette mitzvah, on va prendre une mitzvah, ces tefillin, je les ai mis hier, et je vais les mettre aujourd'hui en faisant les mêmes gestes que ceux que j'ai fait hier, que j'ai fait avant-hier et que je fais depuis ma bar mitzvah. C'est-à-dire, c'est une habitude. J'ai pris l'habitude, c'est comme ça qu'on met les tefillin. Dans ces gestes-là, il n'y a que des gestes d'habitude. Je ne vais pas faire je vais pas mettre les tefillin autrement que je les ai mis hier. Les gestes sont les mêmes. Point de vue des gestes, c'est exactement la même chose. Néanmoins, mon ressenti, si on peut parler comme ça, la façon dont je vis le moment où je mets les tefillin, par exemple, alors je peux, c'est ça la force d'imagination de l'homme capable de renouveau, je peux vivre ça comme si c'était la première fois, comme une première fois.